Boris, tu m'as demandé d'évoquer une œuvre qui éveillait chez moi une notion de transmission orale, enfin qui me faisait penser à cette notion. Et immédiatement, j'ai pensé à Bernard Hetzig, puisque grand fondateur de la poésie sonore, poésie action en France dans les années 50, 1950. Et surtout, j'ai pensé tout de suite à une œuvre tardive de Bernard Hetzig qui s'appelle Respiration et brève rencontre. Alors Bernard Hetzig, donc, c'est l'un des inventeurs en France de la poésie sonore dans les années 50. Et c'est vrai que la notion de transmission orale, pour lui, est très, enfin, fait vraiment sens dans la mesure où il n'a eu de cesse, comme il le disait, de sortir le poème de la page, donc de faire une sorte d'état des lieux de la poésie à l'époque assez compassée, disons, en tout cas qui avait l'air de l'ennuyer pas mal dans ses pages crème, avec ses belles éditions à ouvrir au coupe-papier, etc. Ils ont quelque chose de très coupé finalement du monde, des gens, des vrais gens, quoi, des gens qui sont pas. Enfin, des gens qui n'écument pas toutes les librairies à la recherche des dernières éditions de poésie. Et surtout, je pense qu'il était très connecté à l'art et à la musique contemporaine, qu'il trouvait beaucoup plus expérimentaux, ce qui est vrai. Et donc voilà, il a entrepris de sortir le poème de la page et donc de faire de la poésie sonore, de la poésie action. Notamment de dire les textes sur scène face à un public, mais aussi de travailler sur bande en procédant à du montage. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui existent, notamment celle qui est, je pense, le plus connue, c'est Vaduz. Mais donc cette œuvre tardive qui s'appelle Respiration et brève rencontre, Aldante l'avait publiée en 1999, ça faisait évidemment longtemps qu'il travaillait, je l'ai entre les mains. C'est un livre accompagné de trois CD, puisqu'évidemment pour les poètes sonores, il faut aussi des supports où on peut entendre le son. Et donc dans Respiration et Brève Rencontre, en fait, il a utilisé sa vaste bibliothèque de lecture par des écrivains, puisqu'il collectionnait en fait les disques qu'il pouvait trouver, notamment lors de ses voyages, beaucoup aux États-Unis, je crois. Et à un moment, en travaillant sur un fragment, il s'est rendu compte que parfois on entendait les souffles des écrivains, la façon dont ils prenaient leur respiration, dont ils expiraient. Et Respiration et Brève Rencontre, c'est une collection de ces souffles. Alors, comme il le dit dans l'introduction, la sélection des auteurs dépend et des autrices. Dépend de la qualité des enregistrements qu'il avait, puisque dans certains, on n'entendait pas du tout les souffles. Mais aussi, il s'était donné une autre contrainte, c'était que les interlocuteurs et interlocutrices aient toutes disparu, donc soient tous morts. Donc il y a vraiment un côté un peu spectral dans la réapparition de ces souffles. Et alors, si je prends la fin, donc il y a 60 portraits, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein. D'auteurs et d'autrices, de poètes et de poétesses, on peut dire poète tout court, puisque c'est un épicène. Et en fait, dans ces portraits, il y a à la fois, donc je disais, ce côté spectral enfin, auquel on pense forcément, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais en même temps, les textes de Bernard sont très tendres, souvent drôles, voire prime sautier. Et manifeste à la fois une très bonne connaissance de l'œuvre et de la vie de la personne, et donc imagine cette rencontre impossible et quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. C'est pour ça que j'y ai pensé en termes de transmission. Pour deux raisons principales, c'est que c'est une œuvre un petit peu testamentaire de Bernard Hetzig, puisque c'est une œuvre tardive par rapport au reste de son corpus. Et aussi parce qu'il quelque part il essaye de dire qu'est-ce qu'il a pris, quelle est vraiment la portée de ce que lui ont donné ces poètes et poétesses à travers leur œuvre, la fréquentation de leur œuvre, mais aussi l'écoute de leur voix, et la matière de leur voix et la matière de leur souffle. Donc c'est une œuvre qui est très qui m'avait beaucoup surprise à l'époque. Enfin, j'étais vraiment jeune quand c'est sorti, enfin, par rapport au reste de la des œuvres, mais que je trouve vraiment très très émouvante en fait. Je vais en lire un tout petit extrait. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'auteurs. Peut-être je peux en citer quelques-uns, mais alors, il y a notamment, il y a des gens qui l'a connu aussi. Donc c'est d'autant plus émouvant quand ce sont des comme Brian Gysin, par exemple, évidemment. Mais il y a Colette, il y a T.S. Eliot, donc il y a François Dufresne aussi qui l'a connu. Il y a Céline, il y a Bertolt Brecht, Demetrios Stratos, Reznikov, Ungaretti, Jean Giono, Robert Filliou, Arno Schmitt, Anaïs Nin, Gerasim Luca, Félix Guattari. Donc voilà, il y a, donc, comme je le disais, 60 portraits. Et je vais lire, pour qu'on entende, un portrait de William, enfin, La respiration et brave rencontre avec William Carlos Williams. Oui, et j'avais oublié de dire, troisième élément en fait, j'ai un peu l'esprit d'escalier en enregistrant de cette transmission, c'est que Olivier Cadio a réinterprété ses respirations et brèves rencontres, une dizaine d'années plus tard, si je me souviens bien, avec le comédien Laurent Poitronneau. Donc on a une triple couche de transmission sonore et orale. Le fait que Bernard Hetzig nous l'ait offert un petit peu à la fin de sa vie, le fait que lui se base sur des souffles d'écrivains, d'écrivaines, et le fait que Cadio, à son tour, s'en empare pour transmettre quelque chose. Alors, la respiration et brève rencontre avec William Carlos Williams. Donc, à mon tour, je vais retransmettre. Alors, il y a une sorte de didascalie au début. Tout au long de la lecture, en contrepoint, parfaitement audible, la respiration réelle de Williams Carlos Williams, ainsi qu'un bruit de moteur de voiture ne roulant pas vite. Vous savez, Williams Carlos Williams, je suis très touchée que vous me fassiez participer ainsi à votre tournée de consultation. Oui, vraiment. Je débarque chez vous, comme cela, impromptu. Et vous me proposez, tout de suite, très gentiment, de vous accompagner. Et qui plus est dans l'une de vos dernières tournées, m'avez-vous dit. C'est une fête pour moi. Vous, que l'on sait toujours débordé, submergé, pris dans un tourbillon de travail. Mais comment avez-vous fait? Comment avez-vous pu voir, visiter, comme vous me l'avez dit, 1 500 000 malades, mettre au monde 2 000 enfants? Et malgré cela, ou grâce à cela, je connais un peu, publier quelques 50 livres? Oui, comment avez-vous pu, en même temps, écrire 52 récits, 4 romans, une autobiographie, 600 poèmes? Sans compter ces 50 ans de Patterson. J'en ai le vertige. C'est incroyable. Et me voilà maintenant dans votre voiture, avec son volant. Son fameux volant sur lequel tant de poèmes ont été, pour ne pas perdre une seconde, bien sûr. Non, non, je sais, ce n'était pas l'unique raison. Ah, mais laissez-moi le toucher. Mais dites-moi, cela a dû être tout de même une sacrée course contre la montre. Oui, je connais un peu. Quelle tension! Quel effort! Quelle énergie! Quelle discipline! Bravo! Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Alors voilà Rutherford. Ce chant, votre double chant de manœuvre, avec vos patients, vos rues et tout ce macadam à poèmes. Attention, attention, la voiture à droite. Oui, votre vue. Je sais. En somme, cela a été... C'est... votre territoire de chat. Vous devez en connaître par cœur, par tous les sens, la moindre parcelle, le moindre... Attention, là, ce gosse, là! Il va traverser, c'est sûr. Mais c'est vrai. Vous avez raison. Que tout est bon pour la poésie. Pourquoi pas, Crénon, n'est-ce pas? Vive ce lieu, donc, et son quotidien. Gloire à tout cela, et à tout le reste. D'ici, et hors d'ici, par ricochet. Quel oxygène! Ah, mais nous voilà arrivés. C'est ici? Très bien. Je vous laisse donc. Je vais marcher un peu. Oui, dans le quartier. Et je vous retrouve. Bon, c'est cela. Dans une demi-heure. Ici. Ici même à votre voiture. Parfait. À tout à l'heure. J'ai fait exprès de ne pas le réécouter avant de le lire, mais j'ai l'impression que je me souvenais de certaines intonations quand même. Et on aura compris que les trous, les pauses que j'ai laissées dans la lecture sont indiquées. Il y a des trous et des espaces laissés dans le texte. Et dans la version sonore, évidemment, dans ces espaces, il y a la respiration de Williams, Carlos Williams. Et je pense qu'on a compris que ce que transmet Bernard Hitzig à travers cette œuvre, à travers toutes les bandes, à travers sa voix, c'est quelque chose de l'ordre d'une rigueur poétique aussi. J'allais même dire, en fait, à vrai dire, une rigueur politique, ce qui va de pair. Parce que la poésie, c'est pas les petits oiseaux, hein, la poésie, c'est le fer, le poyenne. Dans cette rigueur qu'il expose par rapport à Williams, Carlos Williams, dans le fait d'intriquer le travail poétique avec un autre travail. En l'occurrence, Williams, Carlos Williams était médecin et Bernard Hitzig a aussi une carrière à la banque en parallèle toute sa vie. Donc cette façon de vraiment la remettre dans le corps, dans la société, dans l'espace et dans le faire. Ça, c'est une transmission de la part de Bernard Hitzig qui a été très, 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 très importante pour moi, qu'il est encore, et je pense qu'il le sera pour pas mal de générations. En tout cas, je l'espère.